Aujourd'hui dimanche, nous sommes le 24 janvier. Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Bis repetita, durement frappé par la tempête Alex en octobre dernier, les villages de la haute vallée de la Roya sont de nouveau enclavés à la suite d'intempéries. 1 million de personnes vaccinées, une pression hospitalière qui reste forte, un troisième confinement en préparation pour la fin de semaine prochaine, selon le journal du dimanche. Raoni, le défenseur emblématique de la forêt amazonienne, demande à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité contre le président brésilien Jair Bolsonaro. Et dans ce journal, nous reviendrons sur le cas Alexei Navalny, l'opposant russe suspendu aux décisions du FSB, malgré la forte mobilisation de ses partisans.
Les invités de cette matinale, Patricia Martin à 8h10, vous recevrez...
L'écrivaine Nancy Houston pour un livre intitulé « Je suis parce que nous sommes », ce sont des chroniques anachroniques parues aux éditions du Chemin de Fer.
Et à 8h20, rendez-vous avec Jacques Attali pour son « Histoire des médias », le livre vient de paraître chez Fayard.
France Inter.
Et dans l'actualité, donc, ce nouveau coup dur pour la vallée de la Roya.
Dans la nuit de vendredi à samedi, les fortes pluies ont détruit 2 ponts installés provisoirement pour permettre la continuité de la circulation entre les villages. Résultat, les villages de Tende ou encore de Fontan sont de nouveau totalement coupés du reste du monde. Impossible de descendre en voiture à Breil-sur-Roya, encore moins à Nice. Reportage de Simon Soubieux de France Bleu Azur.
Le passage à gué détruit se situe à 5 km après Breil-sur-Roya au niveau du village de Saorge. C'est à Saorge justement qu'on croise ce groupe qui devait se rendre à Tende.
6h30, on était devant le passage à gué, bloqué, effondré, avec l'ensemble du matériel qu'on montait pour des familles sinistrées de Tende.
Et on a finalement trouvé la solution système D de monter à Saorge à pied, donc on s'est débrouillé.
C'est également à Saorge, dans ce village, qu'on croise cet homme qui habite Fontan. Impossible pour lui de rentrer à son domicile.
Je pense que les passages à gué n'étaient pas assez hauts et que ça a été construit un peu trop vite. Ben, c'est ça, c'est que on pense qu'on est délaissé dans cette vallée.
L'effondrement de ces passages à gué, évidemment, c'est bien moins grave que la tempête Alex du début octobre, mais pour cette habitante de Tende...
L'angoisse qui remonte, on s'est dit, voilà, ça recommence. On ressent que ça avance pas. Pourtant, on parle de nous tous les jours à la télé, j'ai l'impression, mais on voit pas de solution. Voilà, c'est heureusement qu'il y a le soleil aujourd'hui pour remettre du baume au cœur, quoi.
Les deux passages à gué détruits sont en ce moment en réparation, mais combien de temps vont-ils tenir pour le maire de Tende? À chaque fois qu'il pleut, les habitants de la vallée sont angoissés.
Simon Soubieux de France Bleu Azur. On n'attendra pas le mois de mars pour agir, dit Olivier Véran dans Le Parisien. Face au variant anglais, bien plus contagieux, l'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus évoquée. Seul le calendrier et les modalités sont en débat, selon le journal du dimanche. Comme pour les derniers confinements, le chef de l'État devrait l'annoncer en personne aux Français à la télévision, peut-être mercredi à l'issue du prochain Conseil de défense, pour une entrée en vigueur avant la fin de la semaine prochaine et au moins pour 3 semaines, toujours selon le journal du dimanche.
C'était il y a 1 an, jour pour jour, le premier malade du Covid de retour de Chine. Il était hospitalisé en France.
Depuis, plus de 72 000 personnes ont succombé à la maladie et dans de nombreux pays, les dirigeants ont déjà rendu hommage aux morts du Covid et aux soignants. En France, l'association Victimes du Covid-19 interpelle directement Emmanuel Macron afin qu'il préside une cérémonie, une journée de deuil national. Maxence Lambrec.
Elle a perdu son père et son frère lors de la première vague. Sabrina Selami a écrit cette semaine au chef de l'État pour demander un hommage national. Aujourd'hui encore, elle culpabilise de ne pas avoir pu dignement enterrer les siens.
Ça m'arrive d'aller au cimetière et de dire à mon frère et à mon père, pardon, on n'a pas pu vous accompagner, mais c'était pas de notre faute. Je veux dire, il n'y a pas eu de levée de corps. On ne sait pas qui on a enterré. C'est quand même énorme. On a besoin de communier avec la nation pour finalement redonner un nom, une image à nos défunts.
L'été dernier, le roi d'Espagne avait présidé un hommage national. Après son investiture, Joe Biden a organisé une cérémonie mercredi à Washington. La Chine s'était figée le 4 avril dernier. Alors y aura-t-il en France un mémorial, un jour de deuil national? Réponse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Je n'ai pas connaissance à ce stade qu'il ait été décidé une cérémonie particulière pour honorer leur mémoire, mais évidemment, que nous l'avons en tête et que c'est un sujet sur lequel nous travaillons et nous réfléchissons pour l'avenir.
Un avenir assez lointain, si on en croit l'Élysée. Nous sommes pleinement mobilisés dans la gestion de crise, précise l'entourage d'Emmanuel Macron. Comprenez, chaque chose en son temps.
Et le temps est à la vaccination. Le Premier ministre Jean Castex a indiqué hier que le pays avait franchi le seuil du million de vaccinés, alors que la pression hospitalière reste forte. Hier, 25 800 patients étaient hospitalisés, dont près de 2 900 en réanimation. Des chiffres en légère baisse pour la première fois en 2 semaines. Enfin, depuis minuit, les Européens qui veulent venir en France doivent montrer à leur compagnie aérienne un PCR négatif pour embarquer, limiter l'accès aux frontières françaises. Mais aussi, selon le JDD, le gouvernement pourrait durcir un peu plus le dispositif et suspendre dans les prochains jours les vols avec des pays hors Union Européenne, très à risque, comme le Brésil, qui subit de plein fouet la pandémie avec un variant qui inquiète. Au Brésil, où des milliers de personnes ont défilé hier dans plusieurs villes pour demander la destitution du président Bolsonaro pour sa piteuse gestion de la pandémie. Par ailleurs, le chef Raoni, défenseur emblématique de la forêt amazonienne, saisit la Cour pénale internationale contre le président brésilien pour crime contre l'humanité. Depuis son investiture il y a 2 ans, la destruction de la forêt s'est accélérée sans commune mesure. Augmentation de la déforestation de 34,5% en un an. C'est le reportage d'Anne Vigna.
Après 6 mois d'absence, Raoni est rentré dans son village en ce mois de janvier et a de suite convoqué les chefs de la région pour leur parler de cette plainte qui comporte justement un volet sur la gestion du Covid, nous explique le leader Kayapo.
En plus de la déforestation, Bolsonaro n'a rien fait pour nous aider pendant cette pandémie. Il a voulu changer les services de santé que nous recevons, nous les Indiens, pour les rendre encore plus précaires. C'est pour cela que c'est un crime.
Cette politique de santé est explicitée dans la plainte déposée devant la Cour pénale internationale de La Haye. Mais elle dénonce aussi une politique systématique contre ces peuples et leurs forêts. Maître William Bordon.
C'est une plainte qui vise des crimes contre l'humanité, tels que le transfert forcé de population, l'exécution de militants, la destruction de la biodiversité, s'inscrivant dans le cadre d'une politique préméditée visant à la destruction de la diversité et des communautés protégées depuis des siècles par cette forêt amazonienne.
La plainte est une des premières à mettre en lumière la notion d'écocide, un crime encore absent du droit international, mais très présent dans l'actualité mondiale. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
L'actualité, Laurence, avec ces milliers de manifestants hier en Russie, l'opposant Alexei Navalny a réussi, depuis sa prison, à mobiliser ses partisans qui réclament sa libération.
Succès de la manifestation hier à Moscou et à Saint-Pétersbourg, malgré les arrestations de 2500 personnes. Et il n'est pas certain, Léo Vidal-Giraud, que cette mobilisation des dizaines de milliers de manifestants réussisse à le sortir de prison pour autant.
Avec des dizaines de milliers de manifestants à Moscou, à Saint-Pétersbourg et surtout dans les grandes villes de province, pourtant en général peu réceptives aux appels à la mobilisation, on peut dire que depuis sa prison, Alexei Navalny a gagné son pari. Pourtant, s'il est clair que l'on peut parler de succès de cette mobilisation, son effet sur le sort de l'opposant reste à démontrer. En temps normal en Russie, l'opposition libérale est gérée par une branche de l'administration présidentielle. Elle utilise des outils politiques et légaux pour la neutraliser, pour la marginaliser. Dans ce cas, une démonstration de force, comme celle de samedi, peut faire pencher la balance en faveur d'une libération. Mais pour la majorité des experts, ce cas Navalny n'est plus entre les mains de cette administration. Il est maintenant traité directement par le FSB, les services secrets russes, adeptes de la manière forte. Et si c'est le cas, alors la rumeur selon laquelle la décision aurait déjà été prise au plus haut niveau de lui infliger 13 ans de prison ferme semble tristement réaliste. Et aucun niveau de mobilisation en sa faveur n'y changera quoi que ce soit. En tout cas, ses partisans ne comptent pas relâcher la pression. Ils appellent déjà à de nouvelles manifestations. Ce sera pour samedi prochain. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
Match après match, l'Olympique de Marseille semble s'enliser un peu plus dans la crise. Les Phocéens se sont inclinés hier 3-1 contre Monaco.
Et le foot doit se réinventer pour être plus sexy.
C'est le titre d'un article des Échos où Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, défend le football français, actuellement confronté à une crise économique sans précédent. Il propose aussi, Cédric Guillou, plusieurs pistes pour le réformer.
Une refonte de la Ligue 1 est indispensable pour Jean-Michel Aulas. Comme il l'a souvent dit par le passé, le président président lyonnais souhaite diminuer le nombre de clubs dans l'élite, passer de 20 à 18 équipes en Ligue 1, comme ça a été le cas en France entre 1997 et 2002. Jean-Michel Aulas propose aussi d'instaurer un format de play-off en fin de championnat et de citer l'exemple du top 14 de rugby, un championnat qui, explique-t-il, a trouvé un nouveau souffle dont nous pouvons nous inspirer. Le président de l'Olympique lyonnais compte deux alliés de poids pour accélérer la mise en œuvre de ses propositions. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, avait affirmé en novembre dernier vouloir redessiner le format des compétitions en France et ouvrir un débat sur le nombre de clubs participant à la Ligue 1 et à la Ligue 2. Autre allié pour Jean-Michel Aulas, Maxime Saada, le patron de Canal+, a récemment déclaré qu'avec le top 14, le rugby avait aujourd'hui un championnat homogène et attractif.
Cédric Guillou.
Et c'était le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Jean-Michel Golinski, eh ben c'est bien une météo hivernale, hein?
Qui est au programme effectivement sur les régions de la moitié nord, avec même de la neige prévue. Ceci en marge d'une perturbation qui survole actuellement la façade atlantique et qui va atteindre les régions de l'Est ce soir. Elle va donner de la pluie dans la moitié sud, des pluies marquées sur la Corse, tandis que grâce au Mistral et à la Tramontane, les régions du Golfe du Lion et la Provence vont conserver les pieds au sec. Mais du nord de la Loire aux frontières de l'Est, dans des températures comprises ce matin entre 0 et moins 5 degrés, la pluie en progressant vers l'intérieur, va se transformer en neige, avec une couche de 3 à 5 cm possible ce matin sur la Normandie, puis vers la mi-journée des Hauts-de-France au centre et plus à l'est en soirée. Il va également neiger sur tous les massifs, très bas d'ailleurs sur les reliefs de l'est, entre 2 et 300 mètres, à partir de 500 mètres sur le massif central et vers 1000 mètres pour les Pyrénées et la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.